Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Bienvenue sur Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de l'importance de la vaccination contre la fièvre jaune. Vous savez, la campagne de vaccination contre la fièvre jaune sera lancée, démarre aujourd'hui le lancement officiel. A lieu aujourd'hui à Kinshasa. Il a été cependant constaté lors des campagnes précédentes que les hommes ne s'intéressent pas au vaccin contre la fièvre jaune. Ce sont beaucoup plus les femmes qui amènent les enfants au lieu de pour être vaccinés. Alors pourquoi est-il important de recevoir ce vaccin contre la fièvre jaune? Docteur Elisabeth Munkamba, directrice adjointe du PEV, le programme élargi de vaccination, et notre invitée, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, docteur, pourquoi... D'abord, c'est quoi la fièvre jaune?
Bon, la fièvre jaune, c'est une maladie virale qui est transmise par un moustique du genre Aedes. Et c'est une maladie qui, généralement, peut se présenter sous forme asymptomatique, mais elle peut simuler aussi malaria, un paludisme ou une quelconque autre maladie. Donc c'est une maladie quand même assez grave parce que elle peut entraîner des complications assez sévères au niveau de certains organes vitaux, notamment au niveau du rein et au niveau du foie. Voilà.
Donc c'est les moustiques ordinaires qui nous piquent tous les jours, ou bien c'est des moustiques un peu différents?
Non, les moustiques sont, en fait, c'est le moustique qu'on appelle Aedes, un moustique du genre Aedes.
C'est quoi Aedes?
C'est un genre de moustique, mais pour être plus simple et permettre aux gens de comprendre, c'est un moustique qui, généralement, on le reconnaît, il est un peu sombre, un peu tacheté comme ça, et généralement, il nous pique dans la journée. Donc, il nous pique dans la journée, notamment généralement entre 9h et 11h et vers 15h et 18h. Donc, c'est un moustique que nous côtoyons souvent. Donc, sans peut-être le savoir. Voilà.
Ouais. Eh bien, et comment se manifestent vous avez dit les symptômes sont les mêmes que la malaria.
Oui, généralement, en fait, l'infection, quand vous avez été piqué par le moustique, la maladie peut être asymptomatique, donc vous n'avez pas vraiment des symptômes comme tels.
Pas de fièvre, pas de maux de tête.
Peut-être une légère fièvre, maux de tête, mais il peut arriver aussi que vous avez des symptômes, notamment vous avez la fièvre, des céphalées, des douleurs musculaires et dans la phase au niveau de la vous allez voir apparaître un ictère. Donc les yeux deviennent jaunes, à cause de l'infection tout justement que vous avez, qui a été contractée.
Voilà, les yeux deviennent jaunes. Voilà. Et qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi les yeux prennent cette coloration?
Les yeux prennent cette coloration à cause de l'atteinte hépatique tout justement. Donc lorsque le foie est atteint, il y a cette destruction cellulaire qui va entraîner les yeux jaunes.
Donc ce microbe-là attaque le foie.
Il attaque le foie, oui. Il attaque le foie. Et puis voilà, c'est une maladie. Et puis c'est une fièvre hémorragique. Donc il faut savoir qu'il y a des cellules qui sont les globules qui sont détruits et qui libèrent la bilirubine avec cette ictère-là.
Alors aujourd'hui, on parle de la. Il y a déjà eu d'autres campagnes de vaccination. Aujourd'hui, ce sera le lancement officiel d'une autre phase de vaccination. Mmh. Alors pourquoi est-il important d'avoir ce vaccin?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une maladie qui n'a pas de traitement comme tel. Et la meilleure façon de lutter contre cette maladie, c'est la prévention. Et la prévention par la vaccination. Donc, lorsque vous faites la maladie, le traitement, généralement, on va s'attaquer à ces symptômes-là. Donc, on s'attaque à ces symptômes, notamment à la fièvre. On essaye de réhydrater. Lorsque vous avez une atteinte hépatique, on passe à la dialyse. Et vous voyez, vous connaissez le coût, généralement, des soins ici. Mmh. Ce qui fait qu'il y a à côté un moyen efficace, mais moins cher. qui est tout justement la vaccination. Donc je pense que entre un moyen efficace et moins cher qui est mis à la disposition et des moyens coûteux, notamment la prise en charge qui est coûteuse et qui ne s'attaque que aux symptômes, je pense que il est souhaitable de se faire vacciner.
Et vous avez dit il n'y a pas de traitement. Comment expliquez-vous qu'il n'y a pas de traitement contre la fièvre jaune?
C'est déjà une maladie virale. Donc généralement on s'attaque généralement aux parasites par les antiparasitaires, aux bactéries par les antibiotiques, mais les antiviraux vraiment généralement peut-être pour le VIH, mais pour les autres maladies virales généralement on s'attaque aux symptômes et l'organisme par son immunité arrive à combattre, mais il n'y a pas vraiment un traitement spécifique pour la fièvre jaune.
Mais on entend souvent certaines personnes dire que cette maladie vient de l'Angola. C'est à partir de là qu'elle a été importée ici, chez nous.
Non, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que notre pays se trouve dans une zone à risque. De par l'écosystème, nous sommes dans une région équatoriale, donc qui est faite de forêts, et il y a la présence de l'Aedes. Et les entomologistes peuvent vous dire comment, à quelle proportion et la concentration des Aedes dans différentes régions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une région à risque. Déjà, de ce fait-là, il y a possibilité d'éclosion de la maladie dans notre milieu à cause de ce fait-là. Et
mais c'est vrai que ça a commencé par l'Angola.
L'épidémie actuelle, il y a effectivement plusieurs cas qui ont été importés de l'Angola, mais à côté, nous avons quand même 13 cas qui sont des cas autochtones, c'est-à-dire des cas qui ont été infectés chez nous, sur notre sol, qui n'ont jamais été en Angola, qui n'ont jamais effectué un quelconque voyage à l'extérieur, mais qui ont été qui ont développé la maladie à partir du sol congolais.
Voilà, alors comment se présente le programme de la vaccination? Aujourd'hui c'est le lancement officiel.
Oui.
Ouais, où est-ce que ça va se passer?
Le lancement officiel aura lieu sur le terrain à Sossa, donc à Kasavubu, et il sera présidé par le ministre de la Santé. Voilà, et il y aura effectivement une vaccination symbolique, donc on va vacciner toute personne de cible, donc les enfants, on commence par les enfants de 9 mois et on va jusque au plus vieux. Donc voilà.
Enfants de 9 mois.
À partir de 9 mois, oui.
Jusqu'au plus vieux.
Voilà.
Mais est-ce que les personnes adultes sont également concernées?
Tout à fait. Donc
pourquoi?
Toutes les personnes sont concernées parce que déjà lorsque on a fait l'analyse, on a constaté que les tranches d'âge les plus touchées vont entre 16 et 40 ans. Donc le nombre de cas qui a été rapporté, c'est souvent les personnes entre 16 et 40 ans. Donc vous trouvez une plus grande proportion de personnes atteintes dans cette tranche d'âge-là. Donc et vous voyez que c'est vraiment la population active.
La 16 et 40 ans, oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc de ce fait, il n'y a pas que les enfants, mais c'est surtout les adultes, et nous pensons qu'ils sont vraiment des personnes qu'il faut protéger aussi.
Alors la campagne va durer combien de temps et comment va-t-elle se dérouler? Est-ce que vos équipes vont aller de porte à porte, ils vont faire du porte à porte pour vacciner les enfants ainsi que les adultes?
La campagne dure 10 jours, donc elle va aller du 17 au 26 août. Alors, les équipes n'iront pas de porte à porte cette fois-là. Ce ne sera pas comme la campagne polio, mais les équipes vont être fixes, c'est-à-dire elles vont être installées dans des postes, des centres de santé, où la population devra se rendre pour recevoir les vaccins. Donc là, il y aura quelqu'un pour enregistrer selon l'âge. Il y aura des personnes chargées d'administrer le vaccin, des personnes chargées de collecter les données sur le nombre de personnes vaccinées. Et voilà, on passe aussi un certain nombre de messages sur le site de vaccination.
Bien, dans cette émission, les auditeurs appellent, ils vous écoutent et ils appellent pour poser des questions. Mmh. Nous parlons de l'importance de la vaccination contre la fièvre jaune. Nous avons déjà un auditeur en ligne depuis Lubumbashi, il s'appelle Dixon, Gaël Dixon. Vous voulez également participer à cette émission de la vie au quotidien, appelez au 081-890-63-94.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Quelle est l'importance de la vaccination contre la fièvre jaune? Docteur Elisabeth Mungamba, directrice adjointe du programme élargi de vaccination. Et notre invité, Gaël Dixon, vous êtes à Lubumbashi, Adrienne également. On commence avec vous, Gaël. Bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Je voulais juste poser la question à notre invité par rapport à la thématique du jour. Puisqu'elle vient de dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement spécifique à cette maladie, il n'y a que le moyen de prévention. Alors, il n'y a pas moyen, comme il existe déjà un moyen de prévention, il n'y a pas moyen qu'on puisse éradiquer seulement les moustiques parce que nous voyons dans des pays européens, occidentaux, il n'y a pas vraiment de moustiques. Il y a la malaria qui abat seulement ici en Afrique. Je ne sais pas de quelle manière ils ont pu parvenir à éradiquer leurs moustiques là, bien qu'ils existent encore, mais pas comme ici. Ça, c'était la première question. La deuxième question concernait par rapport à la vaccination, comme elle vient de nous le dire, puisque notre pays n'est pas du tout désenclavé, c'est-à-dire du tout désenclavé, oui, par rapport aux infrastructures ou aux moyens de transport. Il y a les gens qui habitent dans les contrées à l'intérieur qui ne parviendront pas vraiment à atteindre par exemple les villes pour la vaccination. Quels sont déjà les moyens qu'ils ont vraiment mis pour parvenir à atteindre tout l'ensemble du pays? Ce sont les deux questions que j'avais. Merci beaucoup.
Bien, merci Adrienne Amouyette de Lubumbashi. Bonjour, oui. Quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour aussi à notre invité, madame Elisabeth Mukamba.
Bonjour.
J'ai juste une petite question à poser. Avant d'abord de poser ma question, j'aimerais dire que ça craint vraiment du fait qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour la fièvre jaune. Ça craint à part la vaccination. Ma petite préoccupation est juste de savoir, madame Elisabeth, la campagne, ce n'est pas seulement à Kinshasa ou partout en RDC. Et quand est-ce que cette campagne va arriver ici chez nous, à Lubumbashi? Et j'aimerais savoir aussi si cette maladie c'est tout ce que j'avais comme préoccupation. Merci.
Bien, merci Adrienne de Lubumbashi. Madame Elisabeth, vous avez la parole. Il y a Gaël de Lubumbashi qui veut savoir est-ce qu'on ne peut pas carrément éradiquer tous ces moustiques qui causent la fièvre jaune?
Merci Gaël. En fait, sur le plan de l'écosystème, il faut d'abord savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes dans une zone équatoriale. Et de par notre écosystème, le moustique se reproduit. Alors, éradiquer le moustique, je pense que ça crée un déséquilibre sur le plan de la biodiversité, je pense.
Environnemental.
Voilà, environnemental. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moustique ne doit pas être complètement éradiqué, mais il doit être maintenu dans des proportions qui ne mettent pas en danger évidemment la vie de la population. Et ça passe tout justement par l'assainissement du milieu. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Éviter que le moustique ne se reproduise à des proportions assez élevées, ça, tout le monde peut le faire. Il faut éviter de laisser des flaques d'eau,
il faut assainir l'environnement.
Ça, il faut qu'on se le dise. Mais mener une éradication de l'Aedes, je pense que ça va déséquilibrer notre biosystème.
Bien. Et puis, il dit, est-ce que cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune va se limiter dans le milieu urbain ou bien vous irez un peu plus loin?
Non. Lorsque nous ciblons une zone de santé, il faut savoir que le système de santé et les permet que on apporte les soins jusque dans les niveaux les plus jusque dans les milieux les plus reculés, les milieux ruraux. On ne s'arrête pas qu'à la ville. Donc il est mis en place, donc la vaccination s'appuie sur le système de santé. Si dans votre environnement et même dans les villages vous allez voir que généralement dans un rayon de 5 à 10 km il y a un centre de santé et généralement c'est là que la vaccination s'opère et même des mesures sont prises pour réduire au maximum la distance entre le site de vaccination et la population de manière à ce qu'on les mette vraiment très facilement en contact avec les services de vaccination.
Et pour cette campagne des 10 jours vous avez dit 47 zones de santé sont concernées.
Exactement, 47 zones de santé.
Toujours à Kinshasa ou bien?
Non, les zones sont reparties vraiment à la frontière, donc elles vont de Kinshasa, elles prennent le Congo central, le Kwango, le Kasaï central, le Kasaï et Lualaba. Voilà.
Et Lualaba. Et les autres provinces?
Alors, je pense que dans un premier temps, on est intervenu en tenant compte de l'épidémiologie. Les cas ont déjà on sait que l'épidémie a eu comme point de départ évidemment l'Angola avec cette importation des cas, mais après il y a eu les cas autochtones. Donc de ce fait là il fallait qu'on réagisse. Donc il y a eu cette campagne réactive, mais à côté il y a des cas autochtones comme on l'a dit pour lesquels nous avons choisi certaines autres. Alors tenant compte de l'épidémiologie, il a fallu aller rapidement d'abord dans ces zones-là qui étaient à risque, plus à risque que les autres. Comme vous le savez, le risque zéro il n'existe pas. Mais il y a une échelle sur le risque, ce qui fait que ces zones frontalières avec l'Angola présentant plus de risques d'importation et plus de risques de développement de la maladie, dans un premier temps, on y est allé. À côté de ça, il faut comprendre que la disponibilité en vaccins sur le plan mondial ne nous a pas permis effectivement d'avoir les vaccins pour couvrir comme le pays le souhaitait. Tout cette région on a un temps. Et en réaction à la fièvre jaune, on ne peut pas, on n'organise pas comme ça une vaccination
de manière générale à couvrir toutes les provinces.
On tient compte, donc comme on vous le dit, on tient compte du risque.
Les zones à risque.
Et de l'éclosion d'une épidémie, la présence d'un cas, c'est une épidémie et on ratisse autour de ce cas. Voilà.
Bien, on ratisse autour de ces cas. Et Adrien veut savoir si cette maladie est mortelle, la fièvre jaune est mortelle.
Oui, dans une certaine proportion, il y a évidemment des personnes qui développent des complications, notamment des insuffisances rénales, des atteintes hépatiques, et qui conduisent à la mort, effectivement.
Gaspard nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Gaspard.
Oui, bonjour, Radio Capi.
Oui, quelle est votre question?
Ma question est de savoir si une femme enceinte peut également prendre ses vaccins anti-rabique.
Non, c'est pas le vaccin anti-rabique, c'est le
vaccin
contre la fièvre jaune. D'accord, docteur.
Le vaccin contre la fièvre jaune, Gaspard, il s'appelle vaccin anti-amaryl. Voilà.
Anti-amaryl.
Anti-amaryl. Ok. Voilà. Alors, dans la situation actuelle, dans le cas d'épidémie, les femmes enceintes aussi peuvent recevoir ce vaccin-là. Elles peuvent le recevoir et il est prévu effectivement de les vacciner. Donc, les études ont montré qu'il n'y a aucun risque actuel pour que les femmes enceintes reçoivent ce vaccin-là. Voilà.
Shukran Yuma, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour, je dis bonjour aussi à l'invité. Bonjour. Bon, je voudrais juste poser deux ou trois questions que j'avais au moins. Pour la première, je voudrais savoir que cette campagne-là sera répartie dans quelle manière à la démocratie du Congo, ou soit elle se fera seulement là où même vous êtes à Kinshasa. Et une autre question que j'avais à poser. Donc, nous, au moins, j'étais allé un jour auprès de ces gens-là qui font ce travail. Mais il y a eu les parents qui ont chassé ceux-là qui ont voulu faire la vaccination. Alors, j'aimerais au moins que l'invité donne quel est le conseil que l'invité peut donner aux parents-là qui refusent que les enfants soient vaccinés. C'est ça mes deux petites questions. Je vous remercie.
Bien, merci Shukrani. Jean-Paul, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je voulais demander à notre invité comment on peut faire la différence entre, sur le plan clinique, sur le plan symptomatologie, entre l'hépatite virale et la fièvre jaune. Merci.
Bien, docteur Elisabeth.
Ok, la question de Shukrani, c'est déjà savoir comment...
Est-ce que vous allez vous limiter à Kinshasa ou bien vous irez jusqu'à Kindu là-bas? Tout le monde réclame cette campagne de vaccination.
Alors, je pense que ma réponse précédente a été un peu dans ce sens, c'est-à-dire la disponibilité actuelle et, disons, plutôt l'épidémiologie de la maladie, hein, ne permet pas qu'aujourd'hui on puisse vacciner à Kindu. Kinshasa, le Congo central, Kwango, le Kasai, le Lualaba, toutes ces provinces qui ont des zones frontalières avec l'Angola sont celles qui vont vacciner. Et les zones de santé dans lesquelles on a notifié au moins un cas autochtone avec risque de circulation effective de propagation de la maladie. C'est dans ces zones-là que nous vaccinons. Donc la fièvre jaune, c'est ça la politique pour vacciner contre la fièvre jaune. Donc, dans un premier temps, à Kindu, on ne va pas vacciner, mais il faut appliquer les mesures de prévention, notamment l'assainissement du milieu. C'est vraiment ce que nous conseillons, que vraiment les gens les personnes dans la mesure du possible puissent assainir leur milieu. Ça permettra de réduire la multiplication des Aedes. Et de prévenir la maladie.
Alors avant de poursuivre, on va accueillir un autre auditeur, Fiston, qui nous appelle des Kindu. Bonjour.
Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question, Fiston?
Mon problème est que, d'abord, je suis reconnaissant, je remercie grandement la radio Capi parce que c'est une chaîne à qui j'aime tant. J'appelle souvent pour intervenir, mais on est marqué de pas. C'est la première toute fois d'intervenir aux émissions de la radio Capri.
Oui,
par rapport aux problématiques de la journée, c'est pas c'est souvent toujours à Kinshasa. Mais pourquoi pas ici chez nous au Maniema?
Oui, Fiston. À cette question,
vous parlez le sujet du jour.
Oui.
Alors, à Kindu, ne passe pas cette campagne, je ne sais pas pourquoi. Nous entendons toujours, on parle de Kinshasa, mais pourquoi pas qui?
D'accord, docteur, oui. Ça c'est la première question, docteur va répondre directement. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Docteur Elisabeth.
Bon, je viens de répondre à la question. Pour vacciner contre la fièvre jaune, il faut déjà qu'il y ait un cas de fièvre jaune, une épidémie de fièvre jaune qui c'est la présence d'un cas autochtone, c'est-à-dire un cas qui a été infecté là sur place, ou dans le cas actuel, ce que nous demande d'organiser, c'est cette réaction que nous voulons faire par rapport à cette épidémie. Donc, on veut réagir par rapport à cette épidémie qui vient de l'Angola. Et si vous regardez, selon l'épidémiologie, il n'y a pas de cas au-delà des zones qui ont été identifiées. Donc, si à Kindu, il y a un cas autochtones avec des signes que cette épidémie peut se propager, on interviendra à Kindu. Donc il y a des alliés.
Mais cette campagne concerne beaucoup plus les régions qui ont des zones frontalières avec l'Angola.
Nous, voilà, vous l'avez ajouté. Donc frontalières avec l'Angola et comme je l'ai dit, des zones où on a notifié des cas autochtones.
Bien, revenons à la question de Shukrani Yuma qui nous dit parfois lorsque le vaccinateur passe, il y a des parents qui les chassent, qui refusent que les enfants prennent les vaccins. Ça peut être pour des raisons religieuses. Dans leur église, on ne prend pas les vaccins, ou pour d'autres raisons, il y a des préjugés. Il y a tant de mauvaises informations qui circulent selon lesquelles les vaccins rendent les enfants malades ou impotents.
En fait, je pense qu'une des choses à faire, c'est déjà travailler ensemble avec la communauté, ce qui est une recommandation du programme. Il faut travailler avec la communauté. Et là où nous avons travaillé avec les communautés, même celles qui sont dites les plus hostiles à la vaccination, en tout cas, dans la plupart des cas, nous avons des très bons résultats. C'est-à-dire, on mène un plaidoyer, les services médicaux approchent la communauté et lui fait comprendre le bien fondé de l'intervention. Et généralement, quand la population comprend, ou quand le leader d'un certain groupe comprend, ils adhèrent facilement. Et nous avons pu comme ça davantage parler avec ces communautés et pour qu'elles comprennent. Et même les parents, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, c'est peut-être une mauvaise information qui a circulé. Et je pense qu'il faut apporter la bonne information. Donc en apportant la bonne information, en disant à la population que cette maladie est une maladie dangereuse qui peut tuer, et que le seul moyen, c'est faire vacciner, soit les enfants ou les adultes, je pense que dans une certaine mesure, on arrive à réduire ces résistances et on arrive à vacciner.
Oui, Jean-Paul a posé la question de savoir, sur le plan symptomatique, la différence entre l'hépatite, je crois, virale et la fièvre jaune.
Sur le plan des symptômes, lorsque vous regardez quelqu'un atteint d'hépatite virale et quelqu'un atteint de fièvre jaune, vous ne ferez pas d'emblée comme ça une différence. Il y a évidemment peut-être l'examen physique qui peut vous orienter, mais à la fin, c'est la biologie, c'est-à-dire le laboratoire qui va trancher sur l'hépatite virale ou une fièvre jaune. Donc voilà.
Capissoir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Bien, nous parlons de l'importance de la vaccination contre la fièvre jaune. La campagne de vaccination, la énième campagne, démarre officiellement aujourd'hui. Et 47 zones de santé sont concernées par cette campagne des 10 jours. Alors, sur le plan pratique, docteur, comment est-ce que ça va se passer? Les gens doivent aller dans les centres de santé.
Effectivement, il y aura des sites qui seront identifiés un peu partout dans la ville. Donc, à part les trois zones de santé qui ont vacciné plus tôt, c'est-à-dire Massina 2, Ndjili et Kisenso, mais les 32 autres zones de santé de Kinshasa vont mettre en place des sites de vaccination où la population devra se rendre pour recevoir ce vaccin.
Et qui doit recevoir ce vaccin?
Comme nous l'avons dit, c'est les enfants, déjà les enfants à partir de 9 mois et ça va jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'au plus.
Et c'est gratuit pour les enfants, mais pour les adultes, c'est payant?
Non. Pour cette campagne, la vaccination est gratuite pour tout le monde.
On ne paye pas?
On ne paye pas. On ne paye rien.
Voilà. Mais les habitants d'Ndjili, Massina, Kisenso ne sont plus concernés.
Non, parce qu'ils ont déjà été, la campagne a déjà été organisée dans ces zones de santé.
Mais ceux-là qui n'avaient pas reçu. Bien qu'ils sont des Massina, mais ils n'avaient pas reçu le vaccin.
Dans tous les, bon, je pense qu'ils peuvent toujours passer aussi te recevoir parce que notre but c'est vraiment vacciner toute la population. Voilà.
Combien de personnes sont attendues pour cette campagne?
Je n'ai pas le chiffre en tête.
Ah, d'accord. Non, mais on veut le maximum. Hein,
effectivement. Peut-être je pourrais vous trouver les chiffres d'ici là, mais je n'ai pas la cible totale.
Mais il y a des personnes qui ont déjà des cartes jaunes des vaccinations, là, oui. Les documents là. Est-ce qu'il y a encore besoin d'aller prendre le vaccin?
Dans le cadre de la vaccination, dans le cadre des campagnes de vaccination, ce qui est recommandé, c'est que toute personne se fasse vacciner. Vacciné ou pas, vous vous faites vacciner. Voilà. C'est très important. Il faut se faire vacciner. Mais j'aimerais dire qu'il y a des gens qui sont porteurs de ces cartes jaunes, mais qui n'ont jamais été vaccinés.
Oui.
Qui les achètent.
Sans avoir reçu le vaccin.
Voilà. Je pense que ce n'est pas bon. Il serait vraiment souhaitable que ces personnes, elles-mêmes, qu'elles prennent conscience de l'importance de cette vaccination-là et qu'elles se mettent en règle et qu'elles se fassent vacciner. C'est très important pour elles. Et vous verrez que la plupart, ce sont des voyageurs, des personnes, parce que généralement, ce sont les voyageurs qui sont porteurs de ces cartes-là. Parce que quand vous arriverez à la frontière, on va vous la demander. Et certains l'achètent sans recevoir le vaccin.
Ce qui n'est pas bon. Hein.
Ce qui n'est pas bon. Ce qui est vraiment une chose pas bonne. Voilà.
Mais ceux qui ont déjà été vaccinés au programme national de la santé aux frontières, qui ont leur carte jaune, n'ont plus besoin de recevoir le vaccin.
Dans le cas de la campagne, que vous ayez été vacciné avant ou pas, vous pouvez toujours recevoir le vaccin. Donc, une dose supplémentaire, ça ne va vraiment pas être dangereux pour vous. Il n'y a rien à craindre là-dessus.
Voilà, il n'y a rien à craindre. Merci, docteur Elisabeth. Donc, la campagne démarre demain, officiellement aujourd'hui, mais c'est demain qu'on lance les activités sur le terrain.
Effectivement, oui.
Et elle va durer 10 jours.
Voilà.
Voilà. Docteur Elisabeth Mukamba, directrice adjointe du programme élargi de vaccination, merci.
Okay, merci. Peux peut-être vous dire.
Oui, allez-y.
Il est attendu 10 474 988 personnes à vacciner.
Voilà. Merci pour cette précision.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Merci. Au revoir.